L'écho.
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 Des conférences.
L'écho des conférences, l'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina, comme si vous y étiez.
Bonjour, bienvenue dans cette émission L'écho des conférences sur Radio L'Ombre. Nous avons le plaisir de rencontrer ce vendredi 30 juin François Saint-Pierre, avocat, qui va nous parler du droit de se taire. Bonjour François.
Bonjour, merci beaucoup de cette invitation.
Vous êtes avocat, vous consacrez votre activité à la défense pénale. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le guide de la défense pénale. Et vous intervenez ce vendredi dans l'atelier Le droit de se taire avec Mykola Ignatowski, juge à la Cour européenne des droits de l'homme et ancien président du comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. Pour celles et ceux qui ne pourraient venir vous entendre, nous avons la chance de passer une vingtaine de minutes en votre présence pour aborder cette problématique du droit de se taire. Alors le droit de se taire. Toute personne mise en cause parce qu'elle est soupçonnée, suspectée d'avoir commis une infraction, a le droit de garder le silence. Mais ce droit est-il effectif? Quels en sont les contours précis et comment s'exerce-t-il? Pour commencer, François, que signifie le droit de garder le silence?
C'est un sujet très intéressant et que l'on peut définir de cette façon-là. Lorsqu'une personne est questionnée par l'État, la police, la justice, elle a le droit de se taire. Elle a aussi le droit de s'exprimer. Ça semble extrêmement simple, mais en fait, c'est récent en France. Récent relativement, mais c'est surtout des lois de 1993, de 2000, qui ont, pour la première fois, dit que toute personne questionnée par la police, la gendarmerie, un juge, avait le droit d'opposer ce droit, ce silence. Avant, non, il y avait une obligation de s'exprimer. C'est intéressant aussi parce qu'à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Madame Guigou qui était ministre de la Justice en 2000. Tout de suite, les syndicats de police avaient réagi en disant que l'aveu serait impossible et que par conséquent, les enquêtes seraient entravées. Et pendant les années qui ont suivi, il y a eu une série de 4 lois qui ont suspendu ce droit, qui l'ont rétabli en le modifiant, jusqu'en 2014 où la ministre de la Justice, Christiane Taubira, cette fois-ci, a vraiment ancré dans notre législation ce droit au silence. En fait, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui avait stimulé cette évolution-là. Dès les années 1970, dans un arrêt très célèbre, Murray contre Grande-Bretagne, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il était bien évident que le droit à un procès équitable signifiait le droit au silence. Et depuis, c'est parfaitement admis. Le Conseil constitutionnel français, récemment, qui, on le sait, est un organisme très sérieux, eh bien, a jugé que le droit au silence résultait du droit à ne pas s'auto-incriminer, s'auto-accuser, et qu'il était de valeur constitutionnelle. Alors, c'est ça qui me semble très intéressant, parce que nous avons tous, les uns et les autres, une relation à l'institution qui fait que si on est questionné, on a plutôt tendance à répondre. On peut avoir tendance aussi à dire les choses telles qu'elles sont et donc à s'accuser, à s'auto-incriminer. Et on a une petite réticence, en fait, à mentir. Quand le Conseil constitutionnel dit que c'est une liberté publique de ne pas s'auto-incriminer, il faut bien comprendre que cela signifie qu'on a un droit au mensonge, au moins par omission, vis-à-vis de l'État.
Ah, ça va plus loin, un droit au mensonge.
Mais oui, puisque si on vous demande tout à l'heure, est-ce qu'on s'est vu tous les deux? Si vous ne souhaitez pas le dire, vous omettez une réalité. Et donc c'est un droit au mensonge par omission. Et c'est ce qui me semble intéressant, c'est que cette vision morale d'une obligation de dire la vérité est très ancrée dans notre culture. Eh bien, le droit de ne pas s'auto-incriminer est le droit de taire quelque chose, donc de mentir par omission. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Il y avait, au XIXe siècle une polémique extrêmement intéressante entre des philosophes. C'était Benjamin Constant, qui était suisse, lui, qui critiquait Emmanuel Kant, hein, qui était allemand. Kant disait qu'on doit toujours dire la vérité à l'État. Toujours, toujours, toujours. Et c'est très, très actuel comme discussion. Benjamin Constant, dans un petit livre qui s'appelle « Le droit de mentir », répond certainement pas. Imaginons que nous vivions dans une dictature, que la police débarque chez vous et vous demande si vous cachez un ami, si vous avez l'obligation de dire la vérité à l'État, vous devez livrer votre ami.
Faites la dénonciation.
Oui, si vous avez le droit à ne pas vous auto-incriminer, le droit d'opposer le silence, vous mentez par omission, vous ne dites pas que votre ami est là, vous ne le livrez pas à la police. Donc, il y a une portée politique dans ce droit au silence, c'est que il nous faut toujours penser les questions de liberté comme si nous étions en dictature, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui peut devenir le cas. Imaginons que demain, nous vivions sous un régime autoritaire, même s'il est issu des élections régulières. Eh bien, il y a là un symbole extrêmement fort. Nous avons le droit de dire non. Voilà. Je ne vous répondrai pas. Soit parce que je dois me protéger moi, soit parce que je vous juge, vous, illégitime. Et c'est un droit qui est extrêmement fort. J'ai vu l'autre jour un film tout à fait intéressant, remarquable, de Nanni Moretti, le réalisateur italien. Ça s'appelle Santiago Italia. Et j'ai appris que lors du coup d'État des militaires chiliens à Santiago du Chili, c'était le 11 septembre 1973, il y a donc 50 ans de ça, beaucoup de Chiliens ont émigré en Italie. L'Italie a vraiment accueilli beaucoup de Chiliens avec un statut de réfugié politique. Donc il y avait des images extrêmement intéressantes où l'on voit que quand une société bascule dans la dictature policière ou militaire comme ça, les gens sont arrêtés. Et s'ils sont interrogés et qu'ils ont l'obligation de répondre, c'est une manière de les asservir. Et par conséquent, le droit de se taire, de refuser de parler, est une manière de s'affranchir de cette autorité si on la juge illégitime. Alors, moi, j'estime qu'en France, on vit dans un état de droit. On en discute fermement. Ce qui s'est passé l'autre jour à Nanterre illustre bien les très fortes tensions qu'il y a en France et la défaillance, à mon avis, de ce gouvernement pour dire les choses.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé à Nanterre ?
Eh bien, écoutez, deux motards de la police contrôlaient une voiture conduite par un jeune de 17 ans qui avait refusé d'obtempérer. Les images sont là. L'un, en fait, lui met un coup de crosse, l'autre lui dit « il y a une bande-son, si tu pars, je te tire une balle ». Et il a tiré une balle, il l'a tué. En dehors de tout motif de légitime défense. Donc ce policier a été mis en examen et incarcéré. Tout de suite, le président Macron a dit qu'il était extrêmement choqué par cette situation et qu'il adressait ses condoléances à la mère de la victime. C'est une chose, mais qui est son ministre de la Justice? Qui a été le préfet de police de Paris pendant des mois et des mois pendant toute la révolte des Gilets jaunes? Eh bien, c'est ce gouvernement-là qui a toléré une violence policière de plus en plus croissante. D'accord? Donc si je dis ça, c'est parce que quand on est interrogé, c'est face à une institution vis-à-vis de laquelle on peut avoir une extrême réticence. Cela étant, je ne fais pas de procès d'intention de manière générale. Moi, je suis avocat, je connais bien la police, et il y a de très nombreux policiers et gendarmes qui ont une vision très républicaine des choses. Donc là, on peut aborder un autre aspect qui est le suivant, c'est de savoir, vous me posiez la question, est-ce que c'est un droit qui est effectif ? Alors, je vous répondrai d'abord que si le droit au silence est un droit constitutionnel, ce que je disais, il y a un autre droit constitutionnel qui, à mon avis, a encore plus de valeur. C'est le droit de s'expliquer. C'est-à-dire que si la justice vous demande des comptes, vous avez le droit de vous défendre, de dire non ou de vous en expliquer, c'est tout aussi important. Et on se rend compte que les gens, lorsqu'ils sont interrogés par la justice ou des enquêteurs, ont des attitudes extrêmement variées. Certaines personnes diront « je refuse de m'expliquer ». Leurs avocats diront « surtout ne dites pas un mot ». Mais d'autres, au contraire, diront, mais bien sûr, je vais m'expliquer. Et soit je n'ai pas fait ça, c'est pas moi, ou je l'ai fait, mais j'étais légitime à le faire, et voilà les circonstances. Hein. Et par conséquent, il n'y a pas de règle absolue. Dans un état de droit, les enquêteurs sont légitimes à mener leurs enquêtes. Un juge d'instruction est légitime à mener sa procédure et par conséquent à vous convoquer, à vous demander de vous expliquer. Il vous notifie votre droit au silence, votre droit à faire des déclarations, à vous de choisir avec votre avocat. Et en fait, moi je me rends compte que souvent les personnes souhaitent s'expliquer pour se disculper ou au contraire parce qu'elles ont un poids sur la conscience et qu'on ne vit pas avec un crime sur la conscience comme ça. On préfère l'avouer et puis, ma foi, on en paye le prix. Hein, c'est dans l'ordre des choses. Et les avocats doivent faire bien attention à ne pas, imposer leur propre vue sur leurs clients. C'est une discussion qui se passe sous le sceau du secret professionnel où on fait le point sur la situation. Et très souvent, les choses s'organisent et les gens s'expliquent. Il y avait au barreau un avocat qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Thierry Lévy, qui était iconique, qui hélas est mort il y a 3-4 ans, et qui disait, vous savez, les gens sont tellement seuls dans la vie. Quand deux policiers les interrogent, ils sont tellement heureux d'avoir des gens qui sont là pour ça. Et donc ils s'expliquent. Alors c'est ironique, évidemment. Il y a toujours une part de piège. Ce qui est très important, c'est que si l'on choisit de s'expliquer, c'est qu'on a toujours le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et il faut faire très attention à la manière dont on va s'expliquer face à la justice, bien entendu, pour ne pas compliquer les choses, ne pas alourdir l'accusation qui pourrait être portée contre vous.
Est-ce que les personnes sont conscientes qu'elles ont le droit de s'expliquer, mais surtout qu'elles ont le droit de se taire quand elles se retrouvent inculpées ?
Alors, la loi prévoit que les policiers, les gendarmes, les juges d'instruction ou au tribunal, le président du tribunal, doit avant toute chose avertir la personne qu'elle a le droit effectivement de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Donc formellement, quand on est dans le processus judiciaire, oui, on en est informé. Est-ce qu'en général les gens en sont informés ? Plus ou moins, mais c'est, je crois, la raison de notre interview aujourd'hui, c'est d'expliquer ça comme une question de droit civique. Voilà, quels sont les droits du citoyen ? Ben, on a le droit de voter, on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer. Je crois qu'en France, la liberté d'expression est vraiment bien garantie. Mais on a aussi, si on est interrogé par la justice, le droit de se taire ou de s'expliquer. Voilà, ça fait partie vraiment des droits fondamentaux qui organisent une société libre et démocratique.
Et au téléphone, quand on a parlé très brièvement de cette émission, on se questionnait aussi sur est-ce que c'est possible de se taire, de garder le silence, quand tant de possibilités de surveillance sont présentes ?
Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, les dates auxquels ce droit au silence est devenu quelque chose de bien organisé dans notre pays. C'est le début des années 2000. En fait, c'est également le moment de la révolution numérique, du Web 2. Et depuis, tout ça s'est développé et on vit dans ce que l'on appelle une société de surveillance de masse. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est traçable. Hein. Moi, je suis venu ce matin à Dieulefi. J'ai payé quelque chose. Bref, on ne peut plus être anonyme dans ce pays, dans n'importe quel pays. On est toujours tracé, que ce soit par les cartes bancaires, par la téléphonie, la géolocalisation, le passage du péage sur autoroute, où on prend le train, etc. Bref, on peut reconstituer l'itinéraire et le passé de toute personne. Alors, c'est quelque chose qui est important en matière de justice, de procès, et notamment de procès criminels. C'est que, c'était quoi les preuves d'un procès criminel ? Vous aviez un témoin qui disait « oui, je le reconnais, c'était la nuit, etc. » Donc le doute était considérable. Et vous savez que les juges jugent dans leur intime conviction. Moi, ça m'a toujours semblé excessivement dangereux, l'intime conviction, tellement c'est subjectif. Aujourd'hui, dans la plupart des procès de cour d'assises, par exemple, pour les affaires graves, les crimes, n'est-ce pas ? Eh bien, le juge met sur la table toutes les preuves dont il dispose. Alors, vous avez une vidéo, surveillance, ou bien un film, parce que les gens se filment avec leur iPhone. Vous avez de l'ADN, hein ? Vous avez des empreintes digitales, vous avez, etc., toutes les preuves qui prouvent votre implication ou au contraire, qui vous disculpent. Et voyons bien ici que donc, toutes ces techniques de surveillance, toutes ces preuves scientifiques ou numériques, ben, elles ont du bien aussi, parce qu'elles permettent de disculper des gens qui ne sont pas coupables des faits dont on pourrait les accuser. On parle parfois de cold case, et moi je me dis qu'autrefois on jugeait vraiment les gens à l'intuition. Hein, et on sait aussi qu'il y a quand même toujours un risque de délit de faciès, où les gens sont condamnés sur des apparences, et par conséquent, l'origine sociale, l'origine ethnique, la religion...
Ça c'est « 12 hommes en colère » de Sidney Lumet.
Bien entendu, souvenons-nous bien que Henry Fonda... C'est un acteur qui joue dans un film. Dans la vraie vie, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait beaucoup de débats de cette nature-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps, on vous dit « vous avez le droit de vous taire », mais en même temps, la justice a dans les mains toutes les preuves utiles. En fait, finalement, l'aveu, ça n'est plus vraiment un mode de preuve, alors que c'était la reine des preuves, comme on disait autrefois. C'est une façon que le juge a de mettre un accusé face à ses responsabilités. Qu'en pense-t-il ? Ça n'est donc pas, l'aveu ne sert pas tellement au juge pour savoir si oui ou non la personne est coupable ou pas, mais quel est son degré de culpabilité ? Est-ce qu'elle est capable d'admettre ce qu'elle a fait ou pas ? Quelle est son autocritique, etc. Les procès sont toujours des procès de morale, vous savez. Hein ? Et en ce sens, c'est tout à fait intéressant. Mais je crois que depuis toutes ces années, le droit au silence en France n'a pas pris l'ampleur qu'il avait aux États-Unis, par exemple, où l'on voit beaucoup de procès aujourd'hui encore, où les accusés choisissent de ne pas parler.
Et de laisser leur avocat parler à leur
place.
C'est
ça. Et il y a les témoins qui défilent. Et donc la question de la culpabilité ou pas de l'accusé, coupable ou pas coupable, se joue en dehors de lui. C'est une autre tradition, c'est une autre culture. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, mais quand ce droit au silence a été généralisé en France, je me souviens très bien de magistrats ou d'enquêteurs qui disaient « oui, mais dans les affaires de viol d'enfants, par exemple, on ne pourra plus obtenir l'aveu de la personne ». Eh bien, je ne crois pas. Je crois que ça n'a pas changé les choses. D'abord, nous avons beaucoup de preuves numériques qui permettent d'établir la réalité, j'allais dire la vérité. Relative. Mais également, les gens qui sont impliqués dans une affaire judiciaire, je crois la plupart du temps, ont envie de s'en expliquer. Hein. Voilà. Donc, nous avons fait progresser l'état de droit, comme on dit en France, sans du tout nuire à la justice, parce que je pense qu'on peut critiquer la justice, bien entendu. Mais je crois qu'il faut aussi concevoir la justice comme une institution qui sert la justice sociale. Hein. Et je crois que c'est mieux de positiver notre regard sur la justice plutôt que de dénoncer une machine répressive injuste, parce que de toute façon, elle existe, la justice. Et pour bien connaître les magistrats, je crois que la plupart d'entre eux sont animés de ce souci de justice sociale, donc de ce que l'on pourrait appeler une bienveillance.
Merci beaucoup à François Saint-Pierre d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. C'était Sarah, envoyée spéciale de Radio Saint-Ferréol à Dieu le Fit pour les rencontres Concertina aux côtés des radios associatives Radio La, Radio d'ici et Radio BLV. Vous êtes sur Radio La, sur le 106.6 à Dieu le Fit et dans le bassin annonéen et sur l'application Radio La partout ailleurs. Merci.
Merci à vous, Sarah.
Ici l'ombre, la radio de Concertina.